BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H. On va parler beaucoup de budget, de chiffres, hein, puisque je recevrai Joël Giraud. Il est rapporteur général redoutable et redouté, rapporteur général de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. C'est lui qui va se saisir du dossier avec la Commission des Finances de ce budget 2020. On en parlera aussi avec mon invité qui est déjà en studio avec nous, Philippe Dornano. Il est président du CISLEB, bien sûr, et puis président du Métis. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Et vous êtes là surtout pour parler impôts de production, une enquête est sorti avec l'Institut Montaigne qui démontre que ça pénalise énormément l'industrie française. Vous nous direz qu'est-ce qu'on peut faire, surtout qu'a priori c'est pas dans le budget 2020, mais on essaiera peut-être de convaincre Joël Giraud tout à l'heure. Et puis je recevrai aussi Thierry de Montbrial, le président fondateur de l'IFRI. Avec lui on évoquera notamment le Brexit. Mais tout de suite c'est Thomas Asportas, il nous apporte l'essentiel de l'info. Bonjour Thomas.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Et on ouvre ce journal justement avec les impôts de production et les ETI qui montent au créneau le jour de la présentation à l'Assemblée nationale du budget. Elles montent au créneau sur la question donc de ces impôts, ces fameux impôts assis sur le chiffre d'affaires des entreprises. Ces impôts ne baisseront pas dans le budget 2020, mais les entreprises de taille intermédiaire proposent à l'État un plan clé en main pour les réduire de 15 milliards d'euros et qui aurait pour résultat la création de 52 000 emplois. Vous verrez ça dans un instant, Edwige, avec votre invité Philippe Dornano. Mauvais mois d'août pour le commerce extérieur français. Le déficit commercial de la France a progressé de 500 millions par rapport au mois de juillet pour atteindre maintenant les 5 milliards d'euros en août. Le déficit se creuse notamment à cause des importations de matériel de transport et de produits pharmaceutiques. Sur les 8 premiers mois de l'année, le déficit commercial de la France s'est quand même amélioré de 5 milliards d'euros par rapport à la même période en 2018. Et puisqu'on parle de commerce, nous sommes maintenant à 2 jours des nouvelles négociations entre la Chine et les États-Unis. La délégation chinoise sera à Washington les 10 et 11 octobre. Et Donald Trump donne le ton, il veut un accord global, alors que les Chinois voudraient, eux, limiter le champ des discussions. Quoi qu'il en soit, le temps presse, puisque c'est dans pile une semaine, maintenant le 15 octobre, que les États-Unis doivent relever leur taxe sur 250 milliards de dollars d'importations chinoises. Et c'est dans ce contexte qu'on a appris dans la matinée que l'activité dans les services en Chine a progressé en septembre à son rythme le plus faible depuis 7 mois. Dans l'actualité des entreprises, c'est une information BFM Business. La PDG de la FDJ, Stéphane Pallez, était votre invité Edwige ce matin dans Good Morning Business et elle indique que l'État attend au moins 1 milliard d'euros de la privatisation de la Française des Jeux. Une privatisation qui doit maintenant intervenir très vite. L'État veut conserver au moins 20% du capital de la Française des Jeux à l'issue de l'opération. Sinon, c'est un dossier mal engagé et c'est désormais officiellement terminé. La bourse de Hong Kong ne rachètera pas la bourse de Londres. La place de Hong Kong a officiellement retiré son offre après le refus ferme de Londres sur une offre à plus de 32 milliards de livres. La bourse de Londres privilégie une autre grosse opération, le rachat pour 27 milliards de dollars du géant américain des données financières Refinitiv. Et puis c'est une journée importante pour Nissan qui réunit son conseil d'administration pour trouver un successeur à Hiroto Saikawa. Nissan est divisé sur le choix de son nouveau patron entre ceux qui veulent s'émanciper de Renault et ceux qui veulent au contraire renforcer l'alliance. Le conseil de Nissan doit aussi trancher le sort de plusieurs de ses hauts dirigeants qui sont toujours en place alors qu'ils seraient eux aussi impliqués dans des scandales financiers. BFM Business, il est midi 4, on file sur les marchés à la mi-journée qui recule. On abandonne 0,66% à Paris à la mi-journée à 5485 points. L'euro-dollar, lui, gagne un petit peu de terrain. On gagne 0,14%, 1 euro s'échange pour 1,0987.
Et merci Thomas, on vous retrouve bien sûr à 12h30. Tout de suite, c'est Philippe Dornano, le coprésident du Métis, le patron de Sisley qui est avec nous. On parle de quoi ? D'impôts de production.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Question du jour, pourquoi ça baisse pas, hein, Philippe Dornano ? C'est la question qu'on peut se poser, en tous les cas, sur les impôts de production, où la France est largement pénalisée. Vous êtes donc président du Métis, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, et vous dirigez le groupe familial Sisley, les deux chiffres de Sisley.
C'est une entreprise qui travaille dans plus de 100 pays, qui emploie plus de 5000 personnes et qui représente plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une ETI.
Donc
ETI,
c'est vraiment française. L'ETI typique. Ouais. Alors, vous avez, avec l'Institut Montaigne, vous avez lancé une grande étude pour expliquer pourquoi il faut baisser les impôts de production. En deux mots, c'est quoi d'abord ?
D'abord, les impôts de production, ce sont tous les impôts qui portent sur le travail, l'investissement, et la valeur ajoutée produite en France. En fait, c'est des impôts qui taxent le travailler et produire en France. Et si on donne quelques chiffres, c'est des impôts qui sont bien méconnus. Ils représentent 2,5 fois l'impôt sur les sociétés. Ils sont payés à plus de la moitié par 1800 ETI industriels. Donc c'est vraiment des impôts à la fois extrêmement importants, sans doute les plus gros impôts payés par les entreprises en France, et qui taxent les entreprises qui ont fait le choix de construire leurs usines, de travailler en France, et faut regarder ça au regard de la désindustrialisation de la France. Plus d'un million d'emplois détruits dans les 10 dernières années d'emplois industriels.
Oui, on ne peut pas forcément les imputer uniquement à l'impôt de production, non ?
Je pense qu'on peut les imputer à l'impôt de production parce que c'est deux fois, ces impôts de production très importants, c'est deux fois ce que payent les entreprises européennes. C'est sept fois ce que payent les entreprises allemandes. Donc c'est vraiment, quand on compare les savoir-faire français, les talents français, la position de la France dans l'économie européenne et cette destruction massive d'emplois industriels ces 10 dernières années, on peut vraiment s'interroger sur l'impact de ces impôts.
Philippe Dornano, justement, alors il faudrait qu'on essaie de comprendre pourquoi on en parle si peu, pourquoi ça ne bouge pas, pourquoi même dans les budgets successifs, personne ne touche à ça. C'est parce que c'est quand même la base de la fiscalité locale, c'est le revenu de toutes les communes de France, en l'occurrence. C'est pour ça qu'à votre avis, ça passe de chiffon rouge, non ?
Je crois surtout que c'est une multitude d'impôts qui s'additionnent, plus de 200 impôts différents, 9 qui représentent 90% de ces impôts. C'est effectivement des impôts qui sont payés par... qui vont pour l'essentiel aux collectivités locales, mais c'est en même temps quelque chose d'absolument destructeur pour eux, c'est-à-dire qu'ils dépendent de ressources qui détruisent leur économie locale. C'est pas non plus indifférent de voir cette crise des territoires qu'on a connue cette dernière année, ou même le faible nombre d'ETI en France par rapport à nos voisins européens. C'est vraiment un sujet qui est passé sous le radar. On est très focalisé sur l'impôt sur le bénéfice et on ne regarde pas finalement ces impôts qui taxent toutes les entreprises qui font des investissements, qui recrutent.
Alors, il y a les trois impôts principaux de l'impôt de production.
Il y a trois pôles d'impôts de production. Il y a des impôts qui portent sur le fonds, sur vos investissements. Vous achetez des terrains, vous construisez une usine, vous payez immédiatement des impôts. Moi, pour un projet de développement industriel, par exemple, sur mon site, là, les impôts de production représentent 25% de l'investissement. 25% de l'investissement amorti par an. Ouais. Donc, c'est gigantesque. Ensuite, vous avez une deuxième partie, égale à peu près, qui porte sur tout ce qui est travail. Plus on va recruter de gens sur le territoire français, et plus on va payer d'impôts. C'est la taxe transport, il y a toute une série de taxes qui s'additionnent et qui portent sur le travail, en plus du coût du travail, et qui vont impacter les entreprises qui produisent en France. Puis le troisième point, c'est des impôts déconnectés des bénéfices qui portent sur la valeur ajoutée. Oui. Donc vous faites un projet, vous n'avez pas de bénéfices, vous êtes en difficulté, et peut-être que quand vous serez vraiment en faillite, on viendra vous aider et faire des plans d'urgence, mais en attendant, on vous taxe. Et on vous taxe alors même que vous êtes en difficulté. Et c'est très, très différent, il faut en avoir conscience, de ce qui est en place au niveau européen.
C'est surtout qu'il y a vraiment un facteur discriminant très fort pour l'emploi industriel français. Comment vous expliquez, malgré tout, j'essaie de l'expliquer avant que la toux ne me reprenne avec la climatisation, mais comment vous expliquez qu'en France, j'ai envie de dire, Emmanuel Macron, il aurait presque dû commencer par là, au lieu de faire peut-être la baisse sur une trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés.
Vous savez, il y a 10 ans, on a contribué à créer la catégorie ETI. Et je pense que ça a été une œuvre utile parce que ces entreprises moyennes, grandes des territoires, elles étaient peu étudiées, elles étaient peu représentées. Et moi, je l'explique par ça. C'est-à-dire qu'on a, on n'a pas conscience de ces impôts qui touchent peut-être moins des entreprises internationales, d'ailleurs, comme Sisley, qui est une entreprise qui est présente dans le monde entier, mais qui touche beaucoup toutes ces entreprises industrielles des territoires qui vont ensuite générer toute une série d'emplois dans les entreprises de services et qui vont animer nos territoires. Et de nouveau, on peut s'interroger sur la crise actuelle qu'on connaît dans les territoires au regard aussi de cette méconnaissance fiscale. Il y a une vraie réflexion à mener urgente sur la manière de changer la tuyauterie fiscale, de manière à ce que les régions, effectivement, le but n'est pas de retirer leurs ressources aux régions, mais de permettre aux entreprises des territoires, aux entreprises qui font le choix de produire en France, de pouvoir le faire dans des situations de concurrence et de compétition.
Là, dans cette étude, en fait, qu'est-ce que vous mettez en avant ? Parce que vous dites, moi j'ai un plan, nous on a un plan, je dis vous, parce que c'est vous qui êtes le coprésident du métier avec Elisabeth Ducotet. La question, c'est, vous dites, on peut sauver 50 000 emplois comme ça, rien qu'en... Vous avez un plan clé en main, on peut dire, en quelque sorte, où on peut sauver 50 000 emplois et qui ne coûtera que 15 milliards, ce qui est déjà ça.
En fait, ce que montre l'étude d'Asterès, de Nicolas Bouzou et de l'Institut Montaigne, c'est effectivement un chemin. C'est-à-dire qu'on peut très rapidement avoir des résultats. Les 50 000 emplois, c'est des résultats immédiats. C'est assez important vis-à-vis des décideurs publics de leur proposer aussi des résultats immédiats. Mais surtout, proposer un chemin. Pour que, si la France était au niveau européen de taxes de production, il y aurait 35 milliards de moins de taxes de production.
Oui, je crois qu'il n'y a que la Suède qui taxe plus que nous.
Voilà. On propose un chemin intermédiaire de 15 milliards. En fait, c'est une étude chiffrée par les économistes et qui montre la manière dont on pourrait concrètement arriver à ce résultat. Alors, une partie déjà de ce résultat, on l'obtient parce que si vous payez moins de taxes de production, vous payez plus d'impôts sur les sociétés. Donc, en réalité, ça baisse une partie de l'effort. Une deuxième partie, c'est de s'interroger tous collectivement. Est-ce qu'on veut... par soutenir soit par la baisse de la dépense publique, soit par l'augmentation faible d'une TVA qui serait principalement payée par les entreprises en économie de déflation. Est-ce qu'on veut financer la production en France ou pas? Est-ce qu'on a compris ce qu'était cette crise des gilets jaunes profondément? Est-ce qu'on veut y faire face en réindustrialisation, en réindustrialisant et en redéveloppant notre...
Oui, parce qu'il faut préciser qu'effectivement, enfin, vous l'avez dit plus ou moins, Philippe Dormano, c'est que en fait, ce sont les entreprises industrielles qui sont les plus pénalisées. De facto.
55% de cette taxe est payée par 1800, pas grandes entreprises, 1800 ETI industriels. 55% de cette taxe.
Oui, c'est impressionnant en l'occurrence. Est-ce que pour vous, lorsque vous décidez d'une implantation, c'est vraiment un facteur discriminant pour la France ?
Moi, nous Sisley, on produit qu'en France et on essaye de se tenir à ça. Mais une étude était très intéressante qui est sortie il y a quelques semaines qui montrait que les entreprises françaises étaient extrêmement actives pour monter des usines à l'international. Elles montaient des usines, elles rachetaient des usines et qu'elles avaient deux fois plus d'usines à l'international que les Italiens ou les Allemands. La question de nouveau, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour faire face à cette crise de nos territoires? Est-ce qu'on va vraiment agir? Est-ce qu'on va vraiment avoir une politique économique qui va permettre de recréer une activité? C'est une question qu'il faut tous qu'on se pose collectivement. Les régions, l'État, enfin les collectivités locales, l'État et nous, les entreprises.
Oui, je suis d'accord. Du reste, ça fera le lien tout à l'heure avec le budget 2020 parce qu'on parle déjà avec la réforme de la taxe d'habitation. C'est sûr que ça peut pénaliser déjà et fragiliser déjà la fiscalité locale. Mais vous, je vous prends comme cas parce que Sisley, c'est la quintessence de l'ETI française. Visiblement, ça ne vous empêche pas d'avoir vos usines en France.
Tiens, nous sommes un cas un peu particulier parce qu'on est dans le secteur de la cosmétique.
Oui,
un secteur
luxe,
qui a su garder un écosystème, qui est un secteur du luxe, mais la ligne de flottaison pour produire, elle est de plus en plus haute, elle est de plus en plus difficile, et même dans notre industrie, un certain nombre d'entreprises montent maintenant des usines à l'étranger. Donc, la question de nouveau, c'est comment faire pour que notre territoire soit attractif. Le combat qu'on doit porter, c'est le travailler et produire en France.
Ouais. Là, vous n'attendez rien dans le budget 2020?
Non, on pose le débat, on attend des pouvoirs publics, on attend des collectivités territoriales, qu'elles aient la compréhension et la perception de l'urgence. Et notre contribution à ce débat, avec Asterès, avec Nicolas Bouzou, avec l'Institut Montaigne, c'est de porter ce sujet et de l'expliquer. Vous posiez légitimement la question, pourquoi on n'en a pas parlé plus tôt? C'est le premier impôt des entreprises. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus tôt? Voilà, on en parle peut-être tard, mais
c'est plus que l'impôt sur les sociétés.
C'est deux fois et demi l'impôt sur les sociétés.
Oui, mais je repose ma question, c'est pourquoi vous? Alors, on a compris pourquoi le gouvernement, voire les collectivités locales, n'ont pas une envie noire de le mettre ça sur la table. Mais vous, entrepreneur,
à nous, l'adressons
vous,
depuis, nous l'adressons avec constance et nous avons adressé plus largement ce sujet des ETI, les entreprises de taille intermédiaire en France. Il y en avait autant qu'en Allemagne en 1980, il y en a deux fois et demi moins aujourd'hui. On est face à une situation que ces entreprises sont mal perçues, mal comprises, et c'est ce qu'on a essayé c'est ce qu'on essaye de changer dans le débat public.
Il y a un point important aussi sur la fiscalité du capital, notamment de la transmission d'entreprise. Vous êtes une entreprise familiale, il y a beaucoup d'ETI qui sont des entreprises familiales et il y en a beaucoup qui vont changer demain. De ce point de vue-là, vous avez été quand même écouté. On a parlé beaucoup de ce rapport de la comité d'évaluation sur la fiscalité du capital. Ça vous aide, en fait.
Oui, absolument. J'ai même été étonné que le rapport sur la fiscalité du capital n'adresse pas plus ce sujet de la transmission parce qu'il est vital. Dans les 10 prochaines années, une ETI sur deux vont se transmettre. Et avec ça, des énormes enjeux d'emploi. Il y a 15 ans, quand la Commission européenne rend une recommandation sur le sujet, elle estime les destructions d'emplois dans l'Union européenne liées aux transmissions d'entreprises à 200 000 emplois détruits.
Wow.
Donc c'est un énorme enjeu. Et sur ce point, effectivement, il y a des réformes importantes ont été faites. La transmission est devenue, elle est toujours plus coûteuse qu'en moyenne européenne, mais elle l'est beaucoup moins qu'elle l'était par le passé. Dans le quinquennat précédent, les transmissions d'entreprises avaient baissé de 55%. Aujourd'hui, elles sont relancées. Et ça, c'est un point qui est vraiment important pour nos territoires, pour le développement des ETI. Parce que pour arriver à une taille ETI, je rappelle, c'est 50 millions d'euros, c'est 50 millions à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Il faut du temps. On est arrivé à ce niveau-là après un certain temps. Et ça peut nécessiter d'être engagé sur une ou plusieurs générations. Donc, c'est vraiment important pour ces ETI que ce point de la transition ait été abordé par les pouvoirs publics avec courage.
Oui. Donc, de ce point de vue-là, vous, vous tirez vos chapeaux. Non, mais c'est important de dire aussi ce qui marche en l'occurrence. C'est sur les impôts de production. Ça va rentrer, en fait, dans le pacte productif que vous négociez, vous, le METI, le MEDEF, aussi Louis Gallois avec la Fabrique de l'Industrie et Bruno Le Maire, non ?
Les impôts de production. Je pense que collectivement, toutes les entreprises adressent ce sujet parce que ce sujet touche toutes les entreprises, même si elles touchent plus des entreprises fortement implantées en France et des entreprises qui sont industrielles. Mais on est tous liés. Quand on défend l'industrie, on défend aussi les services.
Ça sera dans le pacte productif, vous pensez, du moins, vous l'espérez.
On espère que ce sujet soit pris, et surtout soit pris rapidement, parce que si on veut avoir des résultats, il ne faut pas laisser ce sujet encore traîner pendant 2 ou 3 ans, etc. Il faut le prendre à bras le corps.
Et ben on en parlera tout à l'heure avec Joël Giraud, le rapporteur. Je me ferai l'avocat des ETI françaises, rapporteur donc de la commission des finances du budget. Et puis on en parlera aussi jeudi matin, puisque ça sera Agnès Pannier-Runacher qui est assez en pointe là-dessus. En tous les cas, je crois qu'elle a pris prise de conscience. Merci beaucoup Philippe Dormano d'avoir été avec nous, le patron de Sisley, co-président du METI. Dans un instant, on parlera du Brexit. Ça aussi, c'est un sujet important avec Thierry Montbrial, le président fondateur de l'IFRI.
BFM Business, le club de l'heure H.
Club de l'heure H avec Thierry de Montbrial, président fondateur de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, comme on dit. Thierry de Montbrial, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Beaucoup d'actualités, évidemment, sur le Brexit, sur l'Europe, le sommet européen la semaine prochaine, sur ce qui se passe aussi, une fois de plus, c'est Donald Trump qui fait des allers-retours un peu compliqués à la frontière syrienne, là aussi, pour savoir s'il y a... Parce que derrière cette décision-là, il y a un retrait de l'armée américaine, mais il y a un retrait de l'Amérique tout court, et avec ce qui a peu changé sur le plan géopolitique. Thierry de Montbrial, le Brexit, c'est la question un peu rituelle là, en ce moment. C'est une semaine vraiment très compliquée. On attend les décisions de Boris Johnson pour savoir s'il est prêt à revenir sur ses propositions, parce qu'on voit bien qu'il y a des points qui sont vraiment des lignes rouges, des fractures pour l'Union européenne. Est-ce que vous restez quand même confiant d'un accord ? Peut-être pas conscient, inconscient, je ne sais pas.
La grande difficulté, c'est que pour qu'il y ait un accord, il faut que chacun fasse des concessions sans paraître avoir trahi la cause. Donc ça veut dire que pour les Européens, il est extrêmement difficile de faire des concessions importantes, parce que sinon nous perdrions notre crédibilité, et notamment vis-à-vis de tous ceux qui ont des velléités de partir, comme on l'avait vu d'ailleurs au moment du référendum. Et du côté de Boris Johnson, je le vois difficilement tourner complètement le dos à tout son discours, qu'il soit capable de tout. Voilà, donc si je savais aujourd'hui quel type de compromis serait possible sans que ça ne nuise fortement aux deux parties, je ne serais pas le seul à le savoir.
Alors, il y a peut-être deux points, parce qu'à chaque fois j'essaie de focaliser sur un point plus précis. C'est la question de l'Écosse. Bon, hier, la justice écossaise a plutôt été dans le sens de Boris Johnson, en l'obligeant pas justement à envoyer la lettre pour le no deal. Bon. Mais on sent bien qu'il y a des velléités indépendantes, enfin pas indépendantistes, mais de rester au sein de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut aller jusque-là ?
Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée.
Oui, mais...
Le fond de ma pensée, c'est que le jour où la reine Elisabeth II mourra, il y aura une immense vague d'émotions et on s'apercevra du déclin de la Grande-Bretagne. Et ce qui a failli se produire il y a quelques années après la mort de la princesse Diana... risque de se produire à ce moment-là. C'est-à-dire que la monarchie elle-même risque de se trouver mise en cause. Et oui, le risque d'un nouveau référendum d'indépendance en Écosse, mais qui cette fois-ci passerait, ce risque est réel.
Mise en cause, pourquoi ? Parce que l'absence de position et de, justement de, mais, par rapport à ce sujet du Brexit ou mise en cause ?
Je crois qu'effectivement la question du Brexit est absolument fondamentale, parce que les Écossais veulent rester dans l'Union européenne. Et d'autre part, il y a la question de l'Irlande, et il se pourrait, d'ailleurs c'est extrêmement intéressant, qu'il y ait une demande de réunification de l'Irlande.
Oui, on va revenir sur l'Irlande. Mais d'abord, sur l'Écosse, vous pensez que, un, les Écossais sont au bord de voter l'indépendance de l'Écosse ?
Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, parce qu'il y a toute une procédure.
Il y a quand même le duc d'Édimbourg. Hein.
Mais il y a déjà eu un référendum qui a failli passer. Hein, il se peut très bien, Nicola Sturgeon, qui est Premier ministre de l'Écosse, le répète régulièrement, il se peut très bien qu'il y ait une nouvelle demande de référendum. Ça peut prendre 2 ou 3 ans, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui peut se produire. C'est-à-dire qu'on n'en a pas fini avec la Grande-Bretagne. Mmh. On va en entendre parler beaucoup, quelles que soient les conditions de ce Brexit.
Est-ce que vous pensez que la reine peut faire un geste ?
Non.
Non. C'est ça qui est compliqué pour elle. Elle l'avait fait plus ou moins, visiblement, d'après les mémoires de David Cameron, sur le référendum en Écosse. On avait vu qu'elle avait dit une toute petite phrase.
Alors, effectivement, elle peut toujours dire une phrase très peu audible, mais le propre de la couronne britannique, c'est justement que la grandeur de la reine, l'autorité morale de la reine, suppose qu'elle ne dise rien. C'est la fameuse distinction du dénommé Bagehot à la fin du 19e siècle entre l'efficace, le efficient et le dignified. C'est la dignité de la couronne, c'est un pouvoir fondé sur le fait de ne rien faire. C'est très paradoxal.
Ouais. Alors, effectivement, il y a l'Irlande, et là, pour le coup, il y a une ligne rouge, parce qu'il est prévu dans les propositions de Boris Johnson qu'il y a une sorte de droit de veto tous les 4 ans de la part de l'Irlande du Nord par rapport à ce fameux backstop, par rapport à cette frontière virtuelle, où il pourrait dire non, ça va, ou ça va pas. Ça, c'est inacceptable, bien sûr, pour les Européens. Là, il y a un risque. Comment vous voyez l'évolution ?
C'est là que la crédibilité des Européens est en cause, parce que je vois très difficilement les Européens, l'Union Européenne, faire des concessions. Le backstop, c'est déjà une assez grande concession en soi, n'est-ce pas ? Puisque ça veut dire faire une frontière sans que ce soit une frontière. Et la proposition de Johnson revient aussi à l'annuler. Vous me demandiez, est-ce que je garde un certain optimisme pour un accord ? Franchement, il était nu.
Oui, d'accord. Donc, on va voir, en l'occurrence, ce qui va se passer cette semaine. C'est un point important. Est-ce que ça va être un des sujets abordés à votre, je crois que c'est la 12e édition de votre grande conférence internationale que vous organisez à Marrakech, la World Policy Conference. Ça se tient, je crois que ça commence samedi prochain, en l'occurrence. Vous allez en parler du Brexit, un sujet, ou alors vraiment c'est concentré sur l'Afrique?
On va parler de l'avenir de l'Europe. Je crois que discuter sur le très, très court terme, en général, ça ne mène nulle part, mais il faut voir un peu les tendances profondes. Je crois qu'il y a un sujet européen lui-même. D'ailleurs, le Brexit a permis aussi de le mettre un peu plus en évidence. Tout le monde comprend maintenant de mieux en mieux que l'avenir de l'Europe est étroitement lié à la compétition entre les États-Unis et la Chine. Et c'est à partir de cela qu'il faut construire un nouveau projet européen, parce qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre des pays, tous ceux qui sont rentrés d'ailleurs après la chute de l'Union soviétique, qui n'ont jamais fondamentalement adhéré au projet lui-même, au projet des pères fondateurs. C'est une refondation qu'il faut.
Oui, hier il y avait un dîner de la Revue des Deux Mondes avec Jean-Yves Le Drian, donc le ministre des Affaires étrangères, très intéressant, qui disait, une sorte de discours de la méthode d'Emmanuel Macron, ce qu'il souhaite sur la refonte du multilatéralisme, mais aussi sur la souveraineté européenne, en disant ce n'est plus un gros mot. Avant, il y avait la souveraineté nationale, il ne pouvait pas avoir de souveraineté européenne. Là, aujourd'hui, il y a une volonté des Européens de créer cette souveraineté. Est-ce que vous y croyez, ou est-ce que c'est nécessaire, voire indispensable ?
Alors, c'est nécessaire et indispensable, parce que l'Union européenne doit se renforcer pour ne pas être un sujet de la compétition entre les États-Unis et la Chine, sans parler d'ailleurs des autres mastodontes, l'Inde, même le Japon, etc. Donc, pour que nous existions, nous ne pouvons exister que collectivement. En même temps, il faut bien voir que les intérêts perçus par chacun des pays membres de l'Union européenne sont actuellement très divergents sur les grands sujets, comme par exemple, prenez la question de la Russie, par exemple, il y a des accords à peu près entre tout le monde. Donc, je crois qu'il faut commencer par l'économie. Il faut commencer par l'économie, et en matière de sécurité de défense, des projets relativement modestes mais néanmoins significatifs, comme vis-à-vis de l'Afrique, vous voyez. Mais je pense que la véritable construction de cette souveraineté passe par un projet auquel, la reformulation d'un projet auquel les membres adhèrent vraiment, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et par la création progressive d'une conception commune de ce qui doit être défendu. Tout ça prendra du temps.
Est-ce que vous allez parler, lors de votre World Policy Conference, est-ce que vous allez parler de cette nouvelle, quand même, nouvelle attitude des Américains par rapport au reste du monde, enfin, pas les Américains, de Donald Trump en l'occurrence, qui est de dire toutes nos armées n'ont rien à faire en dehors des États-Unis, je schématise un peu, pardon, et on l'a vu ça encore hier, avant-hier, avec les déclarations qu'il a faites, comme quoi il voulait retirer des soldats américains à la frontière kurde avec la Turquie et la Syrie.
Alors, comme vous l'avez dit vous-même, il y a un aspect l'aspect américain et un aspect Trump.
Ouais.
L'aspect américain, c'est que les États-Unis ont toujours été comme ça. En général, ils s'engagent, puis un beau jour, parce que l'opinion publique évolue pour toute autre raison, ils s'en vont brutalement. Et c'est ce qui s'est passé en 1975, par exemple, après le retrait brutal des Américains du Vietnam, et ça a conduit au Cambodge, au Khmer Rouge, etc. C'est une attitude courante. En 2011, les Américains ont laissé tomber du jour au lendemain Moubarak, ce qui a effrayé d'ailleurs l'Arabie Saoudite à l'époque, et également un pays comme le Maroc, justement. Là encore, on voit bien qu'après l'attaque contre les installations pétrolières d'Arabie Saoudite, la réponse de Donald Trump a été extrêmement molle, pour dire le moins. Donc ce qui se passe actuellement en Syrie avec les Kurdes, ce n'est qu'un bis repetita, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Alors en plus, il y a le facteur Trump qui donne un côté proprement erratique à ce qui, quand même, je le répète, est une tendance américaine bien connue, ce qui est une raison de plus d'ailleurs pour les Américains, pour les Européens, je veux dire, de chercher à se renforcer et à créer cette fameuse souveraineté.
Est-ce qu'on n'est pas en train de laisser tomber nos amis kurdes ?
Bien sûr, mais je crois que c'était écrit. Enfin, je veux dire, les Américains, encore une fois, sont parfaitement capables de faire ça, et je ne vois pas franchement les Européens ou quiconque aller en guerre pour les
Kurdes. Le grand cynisme de la diplomatie. Merci beaucoup, Thierry de Montbrial. Donc, bonne conférence, 12-14 octobre, et ça se passe avec de nombreuses entreprises. Ça se passe à Marrakech. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Dans un instant, on parle de budget 2020 avec l'homme clé, justement, de cette discussion, puisqu'il est rapporteur de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. C'est Joël Giraud qui sera avec nous.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Il est avec nous, il est presque sorti de sa commission pour nous rejoindre. Joël Giraud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes député de La République En Marche des Hautes-Alpes et puis vous êtes rapporteur général donc de la commission des finances, qui se saisit aujourd'hui même du dossier du budget. Mais pour l'instant, rappelle les titres, Thomas Asportas.
Et c'est un mauvais mois d'août pour le commerce extérieur français. Le déficit commercial de la France a progressé de 500 millions par rapport au mois de juillet pour atteindre les 5 milliards d'euros en août. Le déficit se creuse notamment à cause des importations de matériel de transport et de produits pharmaceutiques. Sur les 8 premiers mois de l'année, le déficit commercial de la France s'est quand même amélioré de 5 milliards d'euros par rapport à la même période en 2018. Dans l'actualité des entreprises, c'est une info BFM Business. La patronne de la FDJ, Stéphane Pallez, était ce matin à votre micro, Edwige, dans Good Morning Business, et elle nous a indiqué que l'État attend au moins 1 milliard d'euros de la privatisation de la Française des Jeux, une privatisation qui doit maintenant intervenir très vite. Sinon, dans le reste de l'actualité des entreprises, ça va toujours aussi mal chez Samsung, mais c'est finalement moins pire que prévu, et c'est ça qui plaît au marché, avec un titre qui a fini en hausse sur les places asiatiques. Samsung annonce en effet pour la quatrième fois un net recul de son bénéfice opérationnel. Il va chuter de 56% au troisième trimestre. Mais les marchés finalement s'attendaient à pire et ils estiment maintenant que la demande mondiale de puces va bientôt repartir. Et puis pour finir, c'est une journée importante pour le Rafale puisque c'est aujourd'hui que l'Inde prend possession du premier des 36 Rafales commandés à la France il y a 3 ans. Dassault doit aussi livrer dans les prochaines années plusieurs dizaines d'exemplaires de son avion à l'Égypte et au Qatar. BFM Business midi 32, je vous redonne le CAC. Le CAC à la mi-journée qui recule maintenant nettement. En tout cas, qui accentue sa baisse, qui abandonne 0,78% à 5478 points. L'euro-dollar gagne un tout petit peu de terrain, 0,18%. Un euro s'échange pour $1,0992.
Merci Thomas. Et puis, si vous voulez tout savoir sur le budget, les grands enjeux du budget 2020, restez avec nous. C'est Joël Giraud, rapporteur général de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, qui est notre invité.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, l'homme clé du budget, Joël Giraud, député de La République En Marche des Hautes-Alpes, et puis rapporteur donc de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Merci d'être là, Joël Giraud, parce
Merci
que c'est une
vous.
Journée importante pour la Commission des Finances, puisque vous saisissez du document du budget 2020, où on voit déjà qu'il y a eu beaucoup de tensions, on l'a vu, sur certains amendements, on va y revenir. Et puis, c'est un budget qui se veut post-gilet jaune. Est-ce que ça justifie tous les dérapages qu'on voit sur les grands équilibres macro, notamment en termes de déficit, de dépenses publiques?
Enfin, il y a quand même pas
l'envolement de la dette, l'envol de la dette.
Il y a quand même pas des dérapages que je qualifierais de gigantesques. Bon, il y a effectivement quelque chose qui a été parfaitement inconnu jusqu'à l'année dernière. Je me rappelle d'ailleurs être venu dans vos bureaux. Il y avait une méga.
Un studio, vous savez, ici, il y a une télévision.
Oui, c'est un studio. Je suis désolé, ouais.
C'est l'habitude, oui.
Mais oui, c'est l'habitude du bureau avec mon petit café à côté. Mais j'étais venu l'an dernier. J'ai failli ne pas rentrer parce qu'il y avait des gilets jaunes qui m'en voulaient pas, moi d'ailleurs, qui étaient assez à cran contre votre télévision parce qu'ils estimaient que l'émission vos émissions ne retraçaient pas leur truc. Non, alors si vous voulez, quand il y a une crise sociale dans un pays, il y a forcément des réponses. Alors il y a des réponses qui sont quelquefois, je dirais, immédiates. Ça a été le cas du projet de loi qui a été adopté en fin d'année. Il y a des réponses plus ou moins anticipées. Et puis il y a des réponses plus globales qui étaient prévues dans le cadre de ce quinquennat, dont effectivement la baisse de l'impôt sur le revenu pour les ménages, 5 milliards d'euros, ce qui est pas une paille, mais il y a aussi la transformation de la fiscalité locale et bien sûr la taxe d'habitation. Alors c'est vrai que à partir de ça, on peut considérer que si l'on n'avait pas fait ce genre de choses, il y aurait effectivement
de promesses,
oui, il y aurait effectivement une amélioration du déficit. Pour autant, le déficit aujourd'hui, on peut pas considérer que la France se situe dans une situation qui est une situation tragique. Nous avons un déficit structurel, voilà, qui
ne bouge pas,
qui
même augmente un tout petit peu de 0,1%.
Qui est stable. Si on regarde la réalité des choses, qui est d'une grande stabilité, si on regarde les plus et les moins. Donc, on a un travail sur lequel il faut encore, d'ici la fin du quinquennat, accentuer notre effort. Bon, nous avons décidé de faire en sorte qu'aujourd'hui, on stabilise les choses. Par exemple, sur la fonction publique. Bon, parce que aussi, il faut quand même voir qu'on est dans un pays absolument incroyable. Dès lors que vous voulez modifier les choses, je pense, je sais pas, au réseau du Trésor public, vous trouvez des milliers d'élus qui sont capables de vous dire que ils vont voir les fonctionnaires du Trésor public tous les jours, je dirais, à leur bureau
non,
de la trésorerie.
Non, vous avez Valérie Rabault, donc socialiste, que vous connaissez bien à la Commission des Finances,
plus
bien
que
sûr.
Bien.
Plus que bien, en l'occurrence.
Et que j'estime plus que.
C'est vrai que moi, dans l'internat Garonne, me dit-elle, il n'y a plus de trésorerie. Donc, si vous voulez, c'est quand même. Non, mais je suis d'accord. Bon, en même temps, il y a des économies à faire au sein de l'État. Vous êtes d'accord?
Il y a quelques économies à faire encore au sein de l'État. Je continue à dire ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il y a un certain nombre de secteurs où on serait bien inspiré d'avoir des cahiers des charges de services publics très stricts et une gestion qui est différente.
L'efficacité
bon, je ne suis pas toujours complètement entendu là-dessus. Je veux dire, il y a le secteur des transports en particulier
qui est patent.
Donc, nous pouvons évoluer encore là-dessus d'ici la fin du quinquennat de manière efficace.
Okay. Joël Giraud, vous êtes en train de nous dire, on ne pouvait pas faire des économies là parce que c'est un budget post-gilet jaune. C'est ça que
possible. Il est difficile dans ces conditions d'avoir effectivement un certain nombre de mesures et de ne pas les prendre en considération. Alors, moi, la seule chose que je souhaite aujourd'hui, mais je l'ai dit, c'est qu'on ait une loi de programmation des finances publiques rectificative parce qu'on a changé la programmation des finances publiques. Bon, ça sera le cas à partir du début de l'année prochaine pour qu'on soit un petit peu, je dirais, réglo vis-à-vis des engagements qui sont ceux que l'on a pris au niveau international. Parce qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit des écarts par rapport à la programmation des finances publiques uniquement quand on met le PESTABLE, le programme de stabilité de l'Union européenne. Donc voilà, je veux simplement la vérité des chiffres là-dessus, parce que c'est une réalité et moi je veux qu'on la prenne en compte. Mais au-delà, nous sommes dans une situation qui, lorsque vous regardez vraiment les chiffres, qui est en Europe...
Vous êtes en train de nous dire, permettez-moi mon étonnement, que le budget, là, le texte que vous avez devant vous, il n'est pas réglo. Il n'est pas simplement sincère, au bout d'un moment.
Qu'est-ce que vous attendez? Vous allez reprendre le thème de l'insincérité. Dis simplement que.
Qu'il faut une loi de finances rectificative pour se remettre au carré.
Nous avons changé de ce fait la trajectoire des finances publiques telle qu'elle est prévue en LPFP. Bon, nous avons souhaité, je l'ai écrit officiellement, qu'il y ait une loi de programmation des finances publiques rectificative pour qu'on se mette dans le cadre, tout simplement pour que les choses soient extrêmement claires. Bon, cette loi de programmation des finances publiques rectificative se tiendra en début d'année 2020, c'est-à-dire là où on en saura un peu plus pour être très clair sur le Brexit, parce que bien malin est celui qui peut aujourd'hui prévoir un certain nombre de choses, mais bon, C'est aussi une réalité, parce qu'on en saura sans doute un
mais
peu plus
sur un volet...
Mais il y aura
quoi dans cette loi de finances rectificative, par exemple? Oui,
ben, il y aura d'abord un recadrage de la trajectoire par rapport à ce que nous avons fait et qui, à l'heure actuelle, est quelque chose qui n'était pas prévu à l'origine, mais aussi, il y aura les éléments externes. Des éléments externes, comme je le citais, le Brexit, mais les tensions internationales, et aussi des éléments internes, comme les conséquences de la réforme des retraites. Je crois que les conséquences de la réforme des retraites, il faut commencer à les prendre en compte à partir du printemps 2020, parce que c'est là où on va savoir un petit peu où on va. Et ça, de mon point de vue...
Et ça, c'est plutôt bon pour les finances publiques.
Et ça, de mon point de vue, un effet positif sur, justement, la trajectoire de nos finances publiques. Donc, c'est à ce moment-là qu'on verra exactement où on en est. Je tiens simplement, moi, à la vérité des choses et la vérité des chiffres. Je l'ai écrit d'ailleurs conjointement avec le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, parce que c'est notre rôle respectif, peu importe, je dirais que nous sommes dans des camps différents, et en 2020 nous aurons cette programmation des finances publiques qui sera révisée et qui permettra vis-à-vis de l'Union Européenne, vis-à-vis du FMI et vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires internationaux aussi, d'expliquer où va ce pays, parce que bon, on a, vous savez, quand il y a des crises sociales dans ce pays, on voit des images qui sont diffusées un peu partout, à l'étranger et autres, qui sont quelque soit affligeantes. Moi, j'ai des amis qui habitent en Allemagne qui se demandaient ce qui se passait en France.
Oui, ça c'est sûr. Bon, mais en plus, alors on aime bien ça.
Quand vous allez en Allemagne, vous savez...
Juste pour être sûr d'avoir bien compris, la trajectoire, elle va être modifiée, ou alors vous allez prendre des mesures pour respecter la trajectoire qui a été donnée à Bruxelles. On peut interpréter ce que vous dites de deux manières.
Mais à la fois, elle va prendre en compte la réalité de ce que nous avons fait en plus, comme les mesures gilets jaunes, on va les appeler comme ça, parce que c'est comme ça qu'on les simplifie. Mais en plus, elle va prendre en compte la réalité des impacts que je ne connais pas à l'heure actuelle du Brexit. Vous savez certains disent 0,5 points de PIB. Alors, on est moins vulnérable que d'autres, c'est évident. Bon, pour autant...
Vous pensez quoi?
Je pense que le 0,5, il est bon. Je veux dire, les Cassandres disent 1, mais bon, je pense que le 0,5 est bon parce qu'il est validé par la plupart des instituts. Puis parce que aussi la structure même des relations commerciales entre la France et la Grande-Bretagne fait que s'il y a un pays qui est un peu moins touché que les autres, c'est quand même nous. Voilà, nous aurions des relations commerciales différentes, je ne dirais surtout pas ça. Et puis, va prendre en compte également des éléments qui sont des éléments de prospective sur, je le disais, la réforme des retraites, parce que ça me semble un élément absolument capital.
Vous en attendez quoi? Justement, il faut qu'on soit...
J'en attends effectivement que nous puissions avoir des trajectoires futures qui soient des trajectoires qui sont nettement améliorées par rapport à nos trajectoires actuelle. C'est un de nos gros problèmes. Enfin, je veux dire, les retraites en France.
Donc, est-ce que vous pensez que dans ce que vous nous dites, là, c'est très très intéressant, est-ce que vous êtes en train de nous dire, par exemple, que sur la loi Touraine, il faut effectivement peut-être décaler encore d'un trimestre, aller un petit peu plus vite dans la loi Touraine, décaler un petit peu plus, décaler d'un trimestre le départ à la retraite ou pas? Ça fait gagner beaucoup d'argent. Hein.
Ça fait gagner beaucoup d'argent, mais tout ça m'échappe. Je veux dire, pour être très clair, parce que je suis pas dans la négociation. Nous sommes d'accord. C'est pas mon budget. J'allais dire. Mais bon, effectivement, je crois que toute mesure qui permettra d'avoir une meilleure trajectoire des finances publiques est une source de crédibilité vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires. D'accord. Et vis-à-vis aussi, parce qu'au bout d'un moment, tout ça se renvoie en termes de dette sur nos propres enfants, petits-enfants, etc.
Alors,
C'est salutaire, même si c'est moins salutaire quand il y a des échéances électorales, mais c'est comme ça qu'il faut faire.
Alors, il y a beaucoup d'interrogations sur ce budget, il y a sur des amendements. Donc, d'abord, est-ce qu'il est bouclé, ce budget? Parce que j'ai entendu dire sur la question, vous êtes la suppression des exonérations des micro-entrepreneurs, donc et sur les seniors, en l'occurrence, ça a été annulé par le président de la République lui-même lorsqu'il était à New York, en disant qu'il est hors de question qu'il y ait cette mesure. Mais c'est quand même inscrit dans votre texte, parce que du coup, ça permettait de boucler le budget. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Non, c'est pas ça qui permettait de boucler le budget. Non, très honnêtement, vous savez, moi, quand je vais aller un petit peu plus loin sur un certain nombre de niches fiscales, parce que vous me connaissez...
Justement, il y en a quelques-unes,
Vous me connaissez. Lorsque la trajectoire de l'impôt sur les sociétés est une trajectoire qui baisse, je continue à croire que ça justifie de moins en moins les célèbres dérogations, niches et autres qui arrivent dans notre magnifique budget. Ouais. Bon, à partir de là, j'ai des difficultés aussi à le chiffrer, parce que quand on veut supprimer des niches où vous n'avez absolument... aucun indicateur, vous ne savez pas qui sont les bénéficiaires, vous ne savez absolument pas combien est le montant de la niche.
Bon, vous faites allusion à quoi? Au mécénat, à la cinéma? Vous êtes vraiment
Pas que. Il y a beaucoup de. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des trous noirs.
Oui, les trous noirs.
Il y a des trous noirs. Vous avez des trous noirs sur l'IS. J'ai découvert un trou noir qui date de 42, qui était relatif à une exonération d'impôts dès lors que l'on faisait des constructions dans les ports pour la reconstruction. Ce genre de truc qui est absolument lunaire parce que on a changé de régime. C'est le cas de le dire, là, pour le coup. Vous avez un tas de choses comme ça. Vous avez des choses sur la TVA non évaluées. Il y a des exonérations de TVA sur des imports, sur des exports de produits.
Sur la niche fiscale, vous espérez, en tous les cas, faire combien d'économies?
Je ne sais pas. À l'heure actuelle, quand je vous parle, puisque je vous dis qu'on a souvent sur des trucs non évalués.
Ouais.
Bon, mais moi, je me doute que sur un certain nombre de choses non évaluées, dans un premier temps, ce qui est évident, qui est obsolète ou qui n'a plus de sens au niveau économique, il faut déjà le supprimer complètement. Et ensuite, il faut borner le reste pour qu'on évalue enfin.
Mais à la louche, vous pensez qu'on peut trouver combien?
Entre ça, entre des taux d'intérêt qui sont bas, voire négatifs, je crois qu'on comble largement l'ensemble des mesures qui
gilets
sont...
Gilets jaunes, 15 milliards, quoi.
Gilets jaunes, bon, pas 15 milliards, mais l'ensemble des mesures qui font que l'équilibre était trouvé et que vous venez de citer à l'instant. On les comble très largement. Et puis, bon... Au bout d'un moment, c'est une discussion, si vous voulez, entre le Parlement et le gouvernement qui va s'instaurer là. Mais on est sur un budget. J'affiche une certaine sérénité parce que on avait des budgets, si vous voulez, de transformation pendant
mes deux premières années.
Deux premières années, bon, qui sont des budgets complexes à mettre en œuvre avec des incertitudes. Bon, moi, par exemple, le rendement de l'impôt sur la fortune immobilière, bon, ça me semblait être quelque chose d'assez bien parti. Je me faisais quand même un petit peu de soucis en me disant, on va voir quand même si l'IFI rapporte ce qui est prévu.
Oui. Ça rapporte plus.
Le PFU, pareil. Mmh. Moi, j'ai écouté tous les Cassandres m'expliquer que...
Donc, vous qui venez plutôt de la gauche, vous dites finalement c'est une bonne mesure.
Oui.
Oui, d'accord. Ben non, mais c'est important parce que c'est important pour la suite, hein, en l'occurrence. Sur crédit impôt recherche, on dit beaucoup, vous voulez aller plus loin, vous voulez raboter encore plus. Attention, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vous écoutent là.
Ce que je veux, simplement, c'est une notion d'équité. C'est-à-dire, sur le crédit impôt recherche, je veux simplement m'assurer qu'il n'y a pas d'optimisation fiscale. Mmh. Bon, c'est tout. Donc, à partir de là, étant donné que je n'ai pas des chiffres très précis sur un certain nombre de sujets, je vais proposer un amendement rapport pour que l'année prochaine, nous ayons ces chiffres précis. Et s'il n'y a pas d'optimisation fiscale, tant mieux, on ne touche à rien. S'il y a de l'optimisation fiscale, eh bien là, on verra comment peut-on faire au niveau d'un certain nombre de grands groupes. Voilà. C'est-à-dire que je veux des chiffres. Moi, je suis toujours dans cette culture-là. Vous savez,
Il faut du temps parce que Gilles de Margerie, le commissaire justement de France Stratégie, il me dit, moi, il me faut du temps pour évaluer justement l'impact du crédit impôt recherche.
Oui, mais enfin, il existe déjà depuis un certain temps. Moi, je veux dire, sur les quelques très grandes entreprises, vous savez que l'Allemagne vient d'instaurer un crédit impôt recherche avec un système qui est son calcul au niveau du groupe et pas un système de calcul par entreprise. Ouais. Bon, c'est aussi beaucoup plus limité.
Qu'est-ce qu'il faut exclure comme groupe?
Ah, mais je veux pas exclure de groupe, je veux simplement m'assurer que c'est pas de l'optimisation fiscale. Si c'est pas de l'optimisation fiscale, le CIR est un bon système en France qui a amené beaucoup de gens.
Là, est-ce que vous alliez proposer donc un amendement?
Non, un amendement rapport pour avoir des chiffres très précis et que mon successeur donc puisse juger à l'aune de ces chiffres. Ouais. Je crois qu'il faut qu'on...
Mais vous allez pas plus loin parce que là, on sait que c'est sur c'est déjà amputé sur les frais de fonctionnement, donc il y a 200 millions, vous récupérez 200 millions d'euros.
On récupère 200 millions.
Mais vous ne voulez pas aller plus loin.
Je vais regarder dans ces frais de fonctionnement, pour être très clair avec vous, s'il n'y a pas des éléments qui ont été oubliés ou des taux qui y sont restés. Sur certains secteurs, les frais sont restés à 75%, ils ne sont pas 43%, hein, comme le prévoit le gouvernement. Donc je vais m'assurer quand même que lorsqu'on fait une dérogation, j'ai une marotte peut-être qui est de faire en sorte que les dérogations permanentes pour un certain nombre de secteurs consommateurs, j'aimerais bien que ce soit justifié. Et j'ai l'impression que quand on met en place un système qui depuis 20 ans n'a pas été évalué, il faut se poser des questions. Voilà.
C'est pas le cas pour le crédit impôt recherche, ça fait pas 20 ans qu'il existe le crédit impôt recherche. Enfin, c'est plus ou moins, non, c'est différentes versions. C'est différentes versions.
Oui, voilà, donc, il a muté, oui. On va dire.
Voilà, exactement.
C'est un mutant.
Alors, il y a un point aussi très très important, c'est la fiscalité locale. J'en parlais avec Philippe Darnano, qui est le coprésident du Métis, sur les impôts de production. Moi, j'ai tous les chefs d'entreprise, qu'ils soient grands, petits, qui défilent, qui nous disent, ça nous pénalise, c'est deux fois plus que l'Allemagne, on est le pays où ça pèse ça fonctionne le plus les entreprises, à part la Suède. Est-ce que pour vous, c'est un sujet, l'impôt de production? Parce qu'Almi, c'est presque plus pénalisant que l'impôt sur les sociétés, et on parle beaucoup moins de l'impôt de production que de l'IS.
On en parle moins parce que justement on a une politique publique qui aujourd'hui est une tendance à la baisse de l'IS et qu'on regarde ce qui est à côté n'apparaissait pas comme un élément important.
C'est ça qui est bizarre.
Donc oui, mais bon, j'allais dire c'est comme ça, tout le monde était focalisé un petit peu sur l'IS. Bon, sur les impôts de production, je crois que là où le patronat d'une manière générale a tout à fait raison, c'est qu'il faut faire attention que dans le cadre d'une réforme de la fiscalité locale, on n'est pas un système qui fait que l'on bascule en descendant, par exemple, le foncier bâti sur le bloc communal, on n'est pas un rattrapage, entre guillemets, sur un certain nombre d'autres taxes, dont toutes les impôts de production économique. Bon, je crois que, de ce point de vue, il y a des élus qui souhaitent qu'on enlève, vous savez, cette fameuse règle de lien entre les taux, qui fait que quand on augmente la fiscalité des ménages, je dirais de façon différente de la fiscalité des entreprises, on se retrouve dans un système qui fait qu'on n'a pas le droit de faire trop de différence, parce qu'en général, quand vous êtes maire, et je l'ai été pendant longtemps, vous vous dites, ménageons les ménages qui sont installés aux propriétaires chez moi, les entreprises peuvent payer. Donc, cette règle de lien entre les taux, moi, je souhaite qu'on la maintienne. Elle est prévue comme maintenue. Beaucoup de représentants, et notamment sur la partie droite de l'hémicycle, souhaitent que cette règle saute. Moi, je ne la ferai jamais sauter, parce que je crois qu'il faut une modération. On a prévu tout un système de modération aussi de l'ensemble de la fiscalité locale, qui fait que dans cette période intermédiaire, on ne se rattrape pas. À partir de là, on met en place un certain nombre de garde-fous.
Oui, alors justement, parce que la mesure principale, effectivement, de ce budget, qui est dit du pouvoir d'achat, c'est la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages.
Tout à fait.
Donc avec l'impact que ça peut avoir sur la fiscalité locale, même si ça doit être remboursé à un euro près, enfin, en tous les cas, c'est sur le papier.
Écoutez, non seulement sur le papier, mais pour avoir mis le nez dans un système qui est d'une complexité absolue, je peux vous garantir que tel est le cas.
D'accord, ok. Alors maintenant, la question, c'est savoir sur la taxe d'habitation, s'il y a gel ou pas des valeurs locatives sur la taxe foncière, pardon.
Vous parlez de la base.
Oui, la base.
Oui, alors autant moi je suis favorable au gel du taux.
Alors là, il y a des dissensions.
Oui, moi je suis favorable au gel du taux. Parce que le taux, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, il ne faut pas qu'on ait des ajustements à partir des taux qui seraient défavorables à certaines personnes, ou aux entreprises ou autres. En revanche, sur les bases, c'est vrai qu'on est, j'allais dire, une obligation législative de faire en sorte qu'ils suivent le niveau de l'inflation. Bien. Donc, je pense très honnêtement qu'il aurait été bien mieux de ne pas mettre des surcompensations pour un certain nombre de catégories de collectivités locales, parce que voilà, et de faire en sorte qu'on respecte la loi telle qu'elle avait été votée sur les bases.
Ouais.
Voilà. Bon, pour autant, il y a des amendements de compromis qui sont en train d'essayer d'émerger pour que on ait quand même cette revalorisation à un taux qui, à mon avis, n'est pas forcément un taux extrêmement important, parce que l'inflation, comme vous avez pu le constater, est quand même dans ce pays en régression. Bon, pour qu'on arrive à un compromis et que finalement cette réforme de la fiscalité locale, parce qu'il y a tout un édifice qui a été construit.
Ça sera quoi le compromis? Il sera autour de quoi? De 2? De 1,2? De quoi?
Non, moi je le vois en dessous, parce que compte tenu de ce qui se passe au niveau de l'inflation,
d'accord.
Je veux dire, il faut être clair. Moi honnêtement, je le vois pas au-delà de 0,9, hein, pour être très clair. Mais ça serait un compromis qui me semblerait acceptable dans un contexte général où je rappelle quand même que la réforme de la taxe d'habitation se fait avec des moyens complémentaires donnés aux collectivités locales.
D'accord,
avec
bon
des
de
impôts
souligner.
Dynamiques donnés aux collectivités locales. Quand vous donnez à des collectivités locales une fraction de TVA, je constate que c'est l'impôt le plus dynamique du monde.
Fier, encore un point très important. Non, mais c'est important ce que vous dites, hein, j'ai enregistré. Hein. Fiscalité, mais il nous reste deux minutes, c'est pour ça.
Ah, d'accord.
Fiscalité écologique, CITE. Là aussi, on voit que...
CITE, GNR.
Suppression, oui, suppression du CITE, transformation en prime. Certains disent, pourquoi exclure les 20% les plus riches, alors que c'est sans doute eux qui font le plus de travaux?
Parce que justement, on était dans un système où seuls les plus riches pouvaient se le permettre. Parce que tout simplement, vous deviez faire l'avance. Donc, basculer dans un système qui est un système de primes, où là, vous avez des gens qui n'ont pas pu accéder, qui sont quand même la grande masse des gens. Si vous voulez une fiscalité écologique, c'est quand même pour faire en sorte qu'elle ait un impact sur l'environnement. Et pour autant, qu'elle ne pèse pas sur le budget des ménages. Or, le système de primes, il est beaucoup plus équitable que le système.
Oui, mais souvent,
bien évidemment,
les propriétaires, ils sont un peu plus aisés, en l'occurrence. Donc,
justement, il s'agit de redescendre la barre. Vous savez,
ça va être maintenu, vous pensez, ou pas? Parce qu'il y a des discussions. Oui, ça va être maintenu.
Oui, non, mais ça va être maintenu, parce que je pense qu'on arrive à un système qui est un système qui est bien plus profitable pour 80% des Français. Bon, voilà. Et puis, moi, je salue quand même qu'on soit sur cette fiscalité écologique. Je m'étais exprimé en vous disant que, bon, OK, on était en train de supprimer un certain nombre de mesures. Vous voyez, le GNR, le fameux rouge, ce qu'on appelle ainsi.
Le fuel à l'exonération, bon, le fuel lourd.
Très honnêtement, aujourd'hui, quand je vois les oppositions couiner sur ce sujet.
Et ce n'est pas les oppositions qui couinent, ce sont les agriculteurs, les BTP.
Non, mais attendez, je veux dire, sur un truc comme ça, quand il y a des cadeaux fiscaux, il y a quelqu'un qui les paye. Bien. Et c'est donc tous les Français qui les payent. Et puis on paye la facture assez lourde aussi au niveau environnemental. Je suis bien placé pour le savoir, j'habite dans les Alpes, j'ai des pans de montagne qui s'effondrent dans tous les coins. Et ça génère des frais supplémentaires. Donc aujourd'hui, on met en place un système ensifflé qui était finalement celui qui était sorti de la discussion au Sénat l'année dernière, et d'ailleurs que je voulais conserver, qui me semblait intelligent. Donc on reprend pratiquement la philosophie du Sénat, et ça me va très bien.
Voilà, comme ça, c'est dit, au moins, merci, vous n'êtes pas venu pour rien, vous avez donné beaucoup de précisions, en tous les cas, sur ce budget 2020. Joël Giraud, rapporteur de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale, voilà, c'est la fin de cette Rage. On se retrouve bien sûr demain dans la matinale 8h15, et puis dans le Rage 12h-13h. Bonne journée.